Et à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 17, le livre des rois, le premier, au chapitre 17. Que le Seigneur bénisse nos cœurs. J'en ai assez. Je n'en peux plus. J'arrête. J'abandonne. Combien d'entre nous qui sommes engagés dans la vie de l'Église n'ont jamais dit ou pensé ça? Je n'arrive plus à m'enthousiasmer pour quoi que ce soit. J'ai beau me dire bouge-toi, mes amis ont beau me le répéter, ça ne me dit et fait plus rien. Je me sens nul, déprimé, je me plains de tout et de rien. Les vacances n'ont pas changé grand-chose à ça, j'aborde cette rentrée sans motivation ou presque. Et nous avons tant de raisons de nous décourager, ou du moins de nous laisser séduire par la tentation du découragement. Voilà, ça c'est une expérience que nous faisons tous, que nous avons en commun. Nous nous sommes tentés, plus ou moins, à différentes périodes de notre vie par le découragement. Peut-être ai-je commis une faute dont je traîne les conséquences et dont je me dis que jamais je ne sortirai, ou ai-je un gros défaut ou une mauvaise habitude dont je n'arrive pas à me débarrasser? Alors je suis tenté de me décourager. Ou alors je suis assailli par la tentation du découragement parce que la vie est trop difficile et mes responsabilités trop lourdes, ou parce que je suis trop seul. Ce sont des motifs personnels pour se décourager. Mais il y a encore une autre espèce de découragement, c'est cette tentation qui menace le témoin de Christ, le chrétien fervent. Quand je vois mon incapacité à annoncer l'Évangile, à porter un témoignage convaincant auprès de ma famille, auprès des uns et des autres, quand l'Église elle-même témoigne et que nous voyons le peu de résultats, il y a tant de raisons d'être tenté par le découragement. Il arrive aussi que nous pensions être arrivés au bout de nos peines, on entrevoyait le bout du tunnel et voilà qu'un nouvel imprévu nous tombe dessus. Voilà une nouvelle mauvaise qui nous coupe les jambes, qui nous sape le moral, qui nous enlève les forces qui nous restaient au moment où nous en avions le plus besoin. C'est une expérience que nous faisons. Et c'est ce qui est arrivé à Élie aussi. Élie a fait cette expérience. Élie était un homme courageux. Le prophète Élie, c'est lui qui va s'opposer à un couple qui n'est pas sympathique du tout. Achab et Jézabel. Quand on est chrétien, on connaît ces noms, ces deux prénoms. Achab et Jézabel, c'est un couple qui est cruel. Et en matière de cruauté, c'était certainement les hommes, enfin le couple, les plus cruels à l'époque de Élie. Et Élie a la charge de la part de l'Éternel, d'aller annoncer une très mauvaise nouvelle. Il dit que pendant plusieurs années, il y aura une sécheresse dans le pays d'Israël. Et qui dit sécheresse dit famine. Pendant plusieurs années, les hommes et les femmes dans Israël, le couple royal, la famille royale, souffrira de la faim. Alors bien sûr, Achab et Jézabel ne vont pas rester sans rien faire face à cette mauvaise nouvelle. Et ils vont réagir en s'en prenant directement au porteur de la mauvaise nouvelle, à Élie lui-même. Alors vous connaissez l'histoire, je ne vais pas insister sur l'histoire en elle-même, mais ce que nous devons savoir, c'est que Élie va être poursuivi par ces deux, par Achab et puis par Jézabel, jusqu'à ce qu'il le trouve et le tue. C'était vraiment la pensée de ces deux envers Élie. Alors, Élie ne reste pas insensible, bien sûr, dans cette situation. Il a peur, il est dans l'angoisse, et puis petit à petit, les forces vont partir. Et il va se retrouver seul et découragé. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire l'expérience. Une autre expérience, l'expérience du secours de Dieu. Nous avons tous besoin d'être renouvelés dans nos forces spirituelles, d'être encouragés. Eh bien, l'exemple du prophète Élie nous est donné pour nous éclairer sur ce qui nous donne du courage pour continuer dans ces moments-là. Et celui qui nous donne du courage, le premier qui le fait, celui qui est à même de nous aider dans ces moments-là, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu qui nous encourage. Peut-être que je suis seul et je me pose cette question. Qui va m'encourager? Moi? Qui va le faire? Peut-être que il n'y a personne autour de moi pour m'encourager au moment où j'en ai le plus besoin. Alors qui? Qui va intervenir? Qui va venir me secourir? Eh bien, la Bible, elle donne cette réponse que nous avons besoin d'entendre et de recevoir dans notre cœur parce qu'elle est importante, cette réponse de la Bible. C'est Dieu lui-même qui nous encourage. Nous avons l'assurance de son secours, l'assurance de son aide et l'assurance que lorsque Dieu est avec nous, c'est pour agir en notre faveur. Alors ça peut paraître évident à nos yeux quand on est des chrétiens, quand on a l'idée d'un Dieu bienveillant à notre égard, mais quand on est prêt de perdre toutes nos forces ou quand nos forces nous ont quittés, ce n'est plus aussi limpide dans notre esprit. Alors Élie a fait l'expérience de l'amour compassionnel et fidèle de Dieu à son égard, comme nous pouvons faire cette expérience de l'amour compassionnel et fidèle de Dieu à notre égard aussi. Le chapitre 17, c'est le passage où nous voyons Élie être encouragé par le Seigneur lui-même. C'est ce message de ce matin est le premier d'une série de messages qui répondront à cette question: qui va m'encourager, moi? Alors je vais lire à partir du chapitre 17, le verset 1. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain, pardon, et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Quelquefois, on a juste besoin d'un petit mot d'encouragement. Un petit mot bien choisi et dit au moment opportun par quelqu'un pour nous encourager. Et peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là. Il ne suffisait pas de grand-chose pour nous redonner un espoir, pour nous redonner de l'entrain, sinon quelqu'un qui vienne vers nous et nous dit ce petit mot d'encouragement qui tombe pile poil au bon moment, que nous recevons dans notre cœur et qui nous rebooste, qui nous ressource vraiment. Pas grand-chose, mais un petit mot de la part de quelqu'un. Ce petit mot, c'est un petit mot que nous pouvons recevoir du Seigneur lui-même. En tout cas, c'est un petit mot que je voudrais laisser ce matin à nous tous. Et c'est vraiment un petit mot. Je le dis de manière littérale. Il ne peut pas y avoir plus petit mot que ce mot. Mais c'est un mot merveilleux et que nous avons besoin d'écouter. Mais avant de vous le dire, je voudrais revenir sur ce texte où Dieu fait une invitation à l'homme découragé qu'est Élie. Et cette invitation, c'est une invitation à se mettre à l'écart. Au verset 3, le Seigneur s'adresse à Élie en lui disant: pars d'ici et dirige-toi vers l'est et cache-toi. C'est une invitation du Seigneur à se mettre à l'écart pour trouver du repos ou pour se reposer. Vous savez que tout bêtement, lorsque nous sommes fatigués, au-dedans de nous-mêmes, découragés, et fatigué physiquement, parce que souvent les deux vont ensemble, hein, la tête et le corps. Si ça va mal dans la tête, ça va mal dans le corps, mais ça peut être l'inverse aussi. Le Seigneur dit à Élie, ou demande à Élie d'aller se reposer ou de prendre du repos. Hein, c'est intéressant, aujourd'hui il y a des spécialistes qui parlent de notre dette de sommeil. C'est-à-dire que nous manquons de dormir assez. Enfin, nous ne dormons pas assez. Hein, c'est plus français comme ça. Voilà, nous avons besoin de dormir, nous savons que c'est important, essentiel pour notre santé. Nous savons que si nous ne dormons pas assez, ça a une incidence, une conséquence directe sur notre santé, sur notre vie en général, sur notre travail, sur nos relations, sur plein de choses. Nous savons que nous avons besoin de dormir. Hein, c'est la chose la plus bête, on pourrait dire la plus simpliste qui soit, hein, quand je le dis. Mais nous ne dormons pas forcément. Comprenez? C'est-à-dire que nous avons la chose devant nous la plus connue du monde, et pourtant, ce n'est pas ça qui va nous bouger ou nous mouvoir au moment où nous en avons besoin, voilà, et nous reposer. Pour Élie, il y a un lieu de repos précis, indiqué par Dieu. C'est l'endroit où ses forces seront renouvelées. C'est le bord d'un torrent, qui est appelé le torrent de Kérit. Voilà, au verset 3. Cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le torrent de Kérit, c'est l'endroit choisi par l'Éternel pour qu'Élie puisse se reposer et se ressourcer. C'est ici que le Seigneur va le nourrir et le fortifier. C'est ici que Élie va trouver de la viande et du pain et qu'il va pouvoir boire, dormir, se reposer vraiment et être de nouveau encouragé. Mais il n'y a pas d'autre endroit que au bord du torrent de Kérit. Pourquoi? Parce que, selon le verset 1 et ce que nous avons dit tout à l'heure, ailleurs, il n'y a ni pluie et il n'y a pas de nourriture, c'est la famine. Ailleurs, dans le pays d'Israël, c'est la sécheresse et la famine. Il n'y a qu'à cet endroit, au bord du torrent de Kérit, où Élie peut trouver à boire et à manger. Mais cet endroit, il ne l'a pas trouvé tout seul. C'est Dieu qui l'invite à s'y rendre. Et c'est l'endroit choisi par le Seigneur. Ce torrent, c'est une image de notre Seigneur, justement. C'est une image de Jésus-Christ, qui est pour nous un torrent d'amour et de grâce. Pourquoi un torrent? Parce que de lui jaillit tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas, nous le savons. De lui jaillit ou sort toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. De lui se répand dans nos cœurs l'eau de la vie, le pain de vie, hein, qui sont faits pour nous vivifier, pour nous fortifier, à condition qu'on se tienne proche de lui. Comme Élie se tient proche de ce torrent, nous pouvons trouver du courage, trouver des ressources, de quoi nous rebooster et nous retaper si nous nous tenons proche du Seigneur lui-même. Torrent, le torrent d'amour et de grâce pour nous. Nous connaissons l'invitation de Jésus faite aux disciples dans Matthieu 11, 28. C'est une belle invitation que nous avons besoin d'entendre nous-mêmes aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, nous entendons bien deux choses. Nous entendons bien que Dieu dit vrai quand il dit vous êtes fatigués et chargés quand nous sommes découragés. Voilà, nous entendons bien cette parole. Nous entendons bien que le Seigneur va nous donner du repos. Je vous donnerai du repos, c'est sa promesse. Mais ce que nous avons besoin d'entendre par-dessus tout, ce sont les premiers mots de ce verset, de cette parole. Venez à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos pour les disciples, ou il n'y avait pas de repos assuré pour les disciples, comme il n'y a pas de repos assuré pour nous si nous ne faisons pas l'effort de répondre à l'invitation de Dieu et s'il n'y a pas un déplacement de notre part pour venir jusqu'à lui et nous tenir près de lui. Alors, vous comprenez, le Seigneur nous demande un effort, hein, comme Élie a dû faire un effort pour répondre à l'invitation du Seigneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse de Élie dans le verset 5. Au verset 3, le Seigneur lui dit: pars d'ici et va près du torrent de Kérit. Mais au verset 5, la réponse de Élie devrait être la nôtre aussi. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Il partit et il fit tout ce que Dieu avait dit. Il agit selon sa parole. Ah, pour nous, c'est ce que nous avons besoin de faire aussi. Bien sûr, c'est répondre à son invitation, répondre à son appel, aller là où nous avons besoin d'être. Et pour cela, il nous faut faire un effort, faire un déplacement. Élie trouve une table dressée pour lui par le Seigneur lui-même, avec sur cette table, alors ça c'est une belle image, quelqu'un a dit que cette viande qui était distribuée deux fois par jour pour reconstituer les forces de Élie était de bonnes côtelettes d'agneau. Deux fois par jour, il mangeait ses bonnes côtelettes d'agneau avec du bon pain, et puis il pouvait boire de l'eau du torrent jusqu'à plus soif. Cette eau qui avait le goût du vin, comme a pu dire aussi un pasteur. Mais il y a ce petit mot dont je vous ai parlé tout à l'heure au verset 3. Voilà, le Seigneur dit: j'ai commandé au corbeau de te nourrir. Ah, si je dis comme ça, ou si je m'arrête ainsi, nous n'avons pas le mot d'encouragement, le petit mot d'encouragement dont je vous parlais au début. En réalité, au verset 3, ce n'est pas dans toutes les traductions de la Bible, mais dans certaines, il est dit: j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Là. J'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Et c'est ce petit mot que je voudrais vous laisser ce matin. C'est ce là. J'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Si Élie n'avait pas été là, c'est-à-dire à l'endroit choisi par Dieu pour Élie, il serait resté sans force, dans son découragement, en dehors de là. C'est la famine, il n'y a rien dans le pays. Mais là, pour Élie, c'est le festin. Il a ce qu'il faut pour être pleinement ressourcé, mais là, pas ailleurs. Et cela, c'est intéressant parce que cela, il implique un déplacement, un effort de la part du prophète. C'est là qu'il reçoit de Dieu l'énergie venue d'en haut. Vous avez remarqué, et ça ne vous a pas échappé, qu'Élie est ravitaillé par des corbeaux. C'est un miracle de Dieu qui s'opère ici pour Élie, ou là plutôt, pour Élie. Et ces oiseaux, quelqu'un a dit, c'est le pasteur Fernand le Grand qui a prêché sur ce passage, qui a noté cela très, très important, voilà, ce petit mot. Bon, il a dit aussi que ces oiseaux étaient les plus évangéliques au monde. Et vous savez pourquoi? À cause de leurs cris, à cause de ce qui sortait de leur bec. Croix, croix. Mais c'est intéressant parce que la manière dont Dieu nous donne sa nourriture est tout à fait miraculeuse aussi. Dieu nous donne sa nourriture par le moyen de la parole. Et cette parole, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit le même message que les corbeaux. Crois. Crois en moi. Crois au Seigneur Jésus. Crois que lui seul est capable de t'aider et de te secourir lorsque tu es vraiment abattu dans ton âme, découragé dans ton cœur. Voilà. C'est la parole de Dieu qui contient des ressources insoupçonnées et qui sont à même de nous fortifier au-dedans de nous. Il y a des ressources insoupçonnées dans la parole. Il y a une illustration qu'on pourrait faire. Voilà, je voudrais juste prendre ma Bible. Elle a une couverture noire. Et puis, Je vais prendre entre le pouce et l'index les pages intérieures et puis laisser libre les deux couvertures que je vais agiter avec ma main. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez là le corbeau qui vole et qui vous apporte la nourriture qui est à l'intérieur. C'est intéressant, hein? Voilà, la Bible, c'est notre corbeau, le corbeau du Seigneur qui nous apporte le festin dont nous avons besoin pour être vraiment fortifiés. Elle est là, cette provision de vie que le Seigneur tient en réserve pour nous. Tous les jours, je peux avoir ma côtelette d'agneau et mon pain de vie et l'eau qui me vivifie. L'eau vive du Seigneur, elle est là, dans la parole du Seigneur, là. Le dimanche matin, nous nous déplaçons pour venir dans ce lieu, et ce n'est pas un devoir que nous opérons. C'est un besoin pour nous de nous tenir dans ce lieu ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur a décidé de fortifier notre vie. Par la prédication de la parole, par la communion fraternelle, par les exhortations que nous pouvons nous faire les uns les autres, par les chants que nous élevons devant le Seigneur et qui sont faits aussi pour nous encourager dans la foi et nous rappeler la bienveillance de Dieu. Nous sommes là le dimanche matin, à l'endroit choisi par Dieu pour nous encourager, pour nous fortifier et pour nous ressourcer. À chaque fois que je fais l'effort de lire la Bible, je suis près du torrent de Kérit, le Seigneur de manière miraculeuse, avec sa parole, nourrit ma foi. Quand je passe un temps dans la prière, c'est là l'endroit où le Seigneur me nourrit aussi. Regardez-le là, dans le texte, chapitre 17. On continue, le torrent est tombé à sec, voilà pour Élie, mais le Seigneur a décidé de continuer à l'encourager. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, verset 8: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Alors encore une fois, ce n'est pas dans toutes les traductions, mais ce mot voilà, il est bien dans le texte. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Vous voyez l'importance de cela, hein, qui est pour nous un enseignement, un encouragement à venir près du Seigneur, à venir à l'endroit choisi par le Seigneur pour que nos vies soient vraiment renouvelées. Les ressources ne manquent pas avec le Seigneur quand on se trouve là où il veut que nous soyons. Pour Élie, les soucis le poursuivent. Jézabel va le poursuivre encore après ce temps. Et on a aussi la vie, hein, qui est cruelle. Et voilà, les problèmes qui nous poursuivent tout le temps, qui accaparent nos pensées et sapent nos forces. Et puis Élie, il est comme nous. Il arrive à un moment où c'est trop pour lui. Voilà. Et il le dit. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, c'est vraiment la chose de trop. Hein, il n'en peut plus. Alors ça, c'est le chapitre 19. Au chapitre 19, verset 1, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'est voilà, la cruelle Jézabel qui poursuit Élie. Élie, voyant cela au verset 3, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son jeune serviteur. Il se retrouve seul, au verset 4. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, vous voyez le profond découragement d'Élie cette période de sa vie, et l'Éternel ne le quitte pas. L'Éternel ne quitte jamais celui qui est découragé, qui a besoin d'encouragement. Mais à la différence de tout à l'heure, ce ne sont plus les corbeaux qui sont envoyés par Dieu pour fortifier Élie, ce n'est pas une femme de qui vient le soutien dont il a besoin, mais c'est un ange qui porte secours à Élie. Au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Vous voyez que le Seigneur, l'Éternel, il agit de la même manière envers Élie. Ah, il lui donne de quoi boire, de quoi se nourrir. Il l'encourage, il le fortifie, il lui donne les ressources nécessaires et il recommence. Au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, écoutons bien, hein, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Le Seigneur continue d'agir de la même manière dans sa bienveillance envers Élie, en le nourrissant, en le fortifiant, en renouvelant ses forces, en lui redonnant du courage. À la différence de tout à l'heure, ce n'est plus ni les corbeaux ni la femme, mais un ange qui se tient près de lui. C'est un ange qui lui prépare un gâteau qui va le fortifier de sorte que il va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits. C'est l'évocation d'un autre moment, plus tard, quand Jésus-Christ va entrer dans le désert, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Il est seul aussi. Le Saint-Esprit l'a poussé dans ce désert, il se retrouve face à son ennemi. Et comment va-t-il tenir le Seigneur Jésus-Christ pendant ses 40 jours et ses 40 nuits? Eh bien, il tient grâce à la parole de Dieu. Il s'appuie sur la parole de son Père, sur la parole de l'Éternel. Il ne fait pas autrement. Et cette parole va venir fortifier son cœur, fortifier son âme, le nourrir. Et c'est la parole de Dieu qui est à même de faire cela encore pour nous. Il l'a fait pour Élie et il est à même, elle est à même de la faire aussi pour nous. Cet ange, c'est un ange qui a l'aspect d'un cuisinier. Vous voyez, voilà, il va pour Élie préparer un gâteau, un bon gâteau qu'il va pouvoir manger à sa faim. Pour Élie, c'est formidable. C'est comme un ange cuisinier. C'est quelqu'un d'autre qui a dit ça. Voilà, que cet ange, on peut l'appeler ainsi. Il a un tablier, il a sa toque. C'est Cyril Lignac en personne pour Élie. Pour nous, c'est autre chose encore. C'est quelqu'un d'autre encore. Voilà, derrière cet ange, il y a la personne de Christ. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel prend souvent l'apparence, Christ prend souvent l'apparence d'un ange, et cet ange de l'Éternel, c'est assurément le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes prêts à rendre notre tablier, vous savez, c'est une expression que nous connaissons, quand nous sommes prêts à rendre notre tablier, c'est-à-dire à tout arrêter, à tout abandonner, eh bien voyez comment le Seigneur, lui, est revêtu du sien, de son tablier de serviteur, et il est toujours là, toujours, pour nous secourir et nous encourager. Il se place à côté de nous, et puis, voici ce qu'il nous dit. Lève-toi et mange. Lève-toi, c'est-à-dire, viens là et mange. Viens là près de moi, prends cette nourriture qui est dans ma parole, et mange. Il se place à côté de nous, c'est vrai. Il parle à nos cœurs, c'est vrai. Mais il nous dit, voilà, c'est à toi de te lever, c'est à toi de venir là, à l'endroit où je t'indique, et de manger. Mange. Un peu plus tard, dans ce chapitre 19, l'Éternel va poser une question à Élie, qui est très intéressante. Au verset 9, il entra dans la grotte, et il passa la nuit, donc il s'agit d'Élie. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? C'est Ce n'est pas le mot là, hein, c'est le mot ici. C'est-à-dire que le mot ici, c'est un mot qui parle d'immobilité. Hein. Voilà, je suis ici. C'est Élie dans sa grotte. Il s'est réfugié dans sa grotte, dans sa caverne, dans son trou, et il ne bouge pas d'ici. Voilà, il a décidé d'être immobile, de rester à cet endroit. C'est l'endroit où Élie ressasse les mêmes pensées, comme ça peut arriver pour nous. Hein. Nous sommes ici, dans notre caverne, dans notre grotte. On a décidé de voir personne et on cogite mal, on pense mal. Hein. On repasse les mêmes idées, les mêmes pensées dans notre tête. Puis, ça aussi, ça nous arrive. Ça a pu nous arriver. On prend conscience que ce n'est pas ici qu'on doit rester. Mais que fais-tu ici? Ça vous est pas arrivé de dire ça, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne reste pas ici, hein, parce que ici, c'est la mort. Ici, c'est l'abandon. Et là, c'est Dieu qui pose la question à Élie, deux fois. Au verset 9, que fais-tu ici? Au verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Alors, que ce soit dans la grotte ou à l'entrée dans la grotte, ce n'est pas ta place. C'est ce que voulait dire Dieu ici. Hein? Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas l'endroit choisi pour être fortifié, pour que je t'encourage. Peut-être que votre conscience est en train d'être éclairée en ce moment, parce que vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, que vos pensées ne sont pas les bonnes, qu'il est temps de bouger, de reprendre votre vie en main avec l'aide du Seigneur, en entendant ce que vous dit le Seigneur. Que faites-vous ici? Que fais-tu ici? Mais le Seigneur ajoute une chose. Viens là. Si tu es ici, viens là. Viens te reposer là, près de moi. Tu es ici? Tu es dans ta grotte? Tu y es depuis un certain temps. Tu y es depuis trop longtemps. Alors, viens là, dit le Seigneur, dans sa tendresse pour nous, dans son amour pour nous. Il nous invite et il nous dit, viens là. Surtout ne reste pas ici parce que ta place pour être encouragé, pour trouver le courage dont tu as besoin, c'est là. Viens là. C'est le mot d'encouragement que je voudrais laisser ce matin. Viens là. C'est un mot d'encouragement de la part du Seigneur lui-même. C'est là où tu dois être. Pas ici, mais là. Que le Seigneur vous bénisse.